Voici une question qui porte à réfléchir. Devons-nous saisir les promesses de Dieu par nos propres moyens ou attendre que Dieu nous les accorde en son temps? La parole de Dieu va nous donner la réponse aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Bonjour, ici Caro. Dieu va nous donner des réponses aujourd'hui qui intéressent sûrement tous ceux qui désirent marcher dans sa volonté. Ce sont les réponses aux questions suivantes. Est-ce que Dieu regarde aux apparences ou regarde-t-il uniquement au cœur? Que signifie mépriser son droit d'aînesse? Est-il nécessaire de tricher pour construire le royaume de Dieu? Est-ce que Jacob a triché pour avoir le droit d'aînesse? Aurait-il dû attendre que Dieu le lui donne? Y a-t-il des chrétiens qui méprisent les choses spirituelles, tout comme Ésaü a méprisé le droit d'aînesse? Le pasteur Régent Joly est ici. Il a ouvert sa Bible et il est prêt à nous enseigner ce qu'elle dit concernant les questions d'aujourd'hui. Demandons à Dieu qu'il nous aide à bien comprendre ce bon enseignement. Prions. Ô Seigneur mon Dieu, je sais que tu ne regardes pas aux apparences, que tu regardes uniquement au cœur. Mais on désire aujourd'hui que tu nous l'enseignes par ta parole, pour que ce soit quelque chose qu'on retienne, qu'on puisse appliquer dans notre vie. Instruis-nous, Seigneur. On veut entendre ta voix. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Mes amis, aujourd'hui, nous entreprenons l'étude du chapitre 25 du livre de la Genèse. Je répète souvent que nous sommes arrivés à un chapitre merveilleux de la Bible, mais il y a 50 chapitres dans le livre de la Genèse, et la plupart sont merveilleux. Je me répète au risque de devenir monotone. Ce chapitre relate la mort d'Abraham. Il nous donne la postérité d'Ismaël ainsi que d'Isaac, et finalement, la naissance des jumeaux, Ésaü et Jacob. Le chapitre se termine en traitant du mépris d'Ésaü pour le droit d'aînesse. Ce chapitre est riche en sujets de discussion. À la dernière émission, nous avons vu comment une épouse fut trouvée pour Isaac. Rebecca devint l'épouse d'Isaac. Nous allons maintenant débuter la lecture du chapitre. C'est dans ce chapitre que nous parlons pour la dernière fois d'Abraham. En fait, son histoire se termine lorsqu'il envoie son intendant à la recherche d'une épouse pour Isaac. Cependant, ce chapitre mentionne son décès. Débutons notre lecture. Genèse chapitre 25, verset 1. Abraham prit encore une femme, nommée Keturah. Après le décès de Sarah, Abraham s'est remarié à une femme nommée Keturah. Verset 2. Elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Jishbak et Shuak. La famille d'Abraham fut nombreuse, et la plupart naquirent après le décès de Sarah. Cependant, certains se posent des questions, car la Bible affirme qu'Abraham était incapable d'engendrer des enfants au moment de la naissance d'Isaac. En effet, la Bible affirme que le corps d'Abraham était déjà usé et qu'il avait 100 ans au moment de la naissance d'Isaac. Cependant, Dieu a fait un miracle, et lorsque Dieu fait une guérison, elle est réelle. Dieu signe ses œuvres. Donc, non seulement Abraham a-t-il engendré Isaac, mais il a engendré une famille nombreuse. Cependant, les noms de Médan et Madian méritent d'être notés. Je ne peux pas nommer les nations issues des autres garçons, et je ne crois pas que cela soit important, car la Bible n'en reparle jamais. Cependant, la Bible nous reparle de la nation issue de Madian, et elle croise le chemin du peuple de Dieu. Moïse s'est réfugié dans le pays de Madian, et c'est de ce peuple qu'il s'est choisi une épouse. Madian fait partie de la postérité d'Abraham, mais celle à laquelle est rattachée la promesse. C'est l'histoire et la postérité d'Isaac qui nous intéressent, car il est l'héritier de la promesse. Ce n'est pas Ismaël, Madian ou aucun autre fils d'Abraham. Tous devinrent des nomades dans le désert. Allons au verset 5. Pour y lire les versets 5 à 10. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons au fils de ses concubines, et, tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut, après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Éphron, fils de Tsokhar, le Héthien, vis-à-vis de Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Heth. Là furent enterrés Abraham et Sarah, sa femme. Ismaël est venu au service funéraire, ce qui est normal, puisqu'Abraham est son père. Les deux frères enterrent leur père. Verset 11. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de l'Akaïroï. C'est là qu'il était venu à la rencontre de Rebecca lorsqu'il est arrivé. Maintenant, les versets 12 à 18 nous donnent la postérité d'Ismaël. Nous ne lirons pas tous ces noms, mais nous voyons la façon de procéder du Saint-Esprit qui inspire la Bible. La postérité rejetée est mentionnée premièrement pour ne plus en reparler. Ensuite, l'Esprit donne la postérité dont Christ fera partie. Donc, après la postérité d'Ismaël, nous avons la postérité d'Isaac. Lisons les versets 19 et 20. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padam-Aram, et sœur de Laban, l'araméen. C'est cette postérité, la lignée d'Isaac, que la Bible suit et que nous allons étudier. Nous allons retrouver la généalogie d'Isaac dans le premier chapitre du livre de Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament. La généalogie ne mentionne pas les noms des autres fils d'Abraham. C'est la lignée d'Abraham à Christ, en passant par Isaac, qui nous intéresse. La Bible ne s'arrête pas sur la généalogie des autres frères d'Isaac. Verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Rebecca est stérile, et Isaac implore l'Éternel. Elle va maintenant donner naissance à des jumeaux. Verset 22. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Ce verset est fascinant lorsqu'on y réfléchit. Ce verset parle d'une lutte, qui se poursuit présentement dans le monde. C'est la guerre entre la lumière et les ténèbres, entre le bien et le mal, entre l'esprit et la chair, et tous les enfants de Dieu connaissent cette lutte. Elle est bien décrite dans le 7e chapitre de l'Épître de Paul aux Romains. Les enfants se heurtaient dans le sein de leur mère. Rebecca ne comprenait pas ce qui se passait. Alors, elle consulta l'Éternel. Lisons ensemble le verset 23. Et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Nous avons ici la réponse de Dieu. L'aîné servira le plus jeune. Elle aurait dû croire cela, ainsi que son plus jeune fils. L'affirmation de Dieu était claire. Versets 24 et 25. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ésaü signifie « rouge ». Ésaü est né rouge, la couleur de la terre. Il est l'aîné, mais il sera assujetti au plus jeune. Verset 26. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Isaac et Rebecca étaient mariés depuis une vingtaine d'années, au moment de la naissance des enfants. Ésaü était roux comme la couleur de la terre, et Jacob, dont le nom signifie « supplanté », tenait son frère par le talon. Il essayait déjà de supplanter son frère. Mais Dieu lui avait déjà promis l'héritage. Il aurait dû croire Dieu. Nous allons examiner la conduite de ces deux garçons alors qu'ils grandissent. Verset 27. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Nous voyons ici que les deux frères jumeaux étaient très différents l'un de l'autre. Ils ont lutté dans le sein de leur mère, et maintenant nous verrons qu'il y a toujours eu une rivalité entre eux. Ils ne voient pas les choses de la même façon. Leur philosophie est différente. Leurs pensées et leurs attitudes sont diamétralement opposées. Au premier coup d'œil, Ésaü semble être un individu plus intéressant que Jacob. Cependant, nous ne pouvons pas toujours juger par les apparences. Il faut aussi examiner ce qui se passe dans le cœur d'une personne. C'est spécialement vrai dans ce cas que nous avons devant nous. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Ésaü était un chasseur habile. Il aime le grand air et les grands espaces. C'est un athlète. C'est le type sportif. Il aime les sports, en particulier la chasse. Cependant, du côté spirituel, les choses laissaient à désirer énormément. Il n'entendait rien aux choses spirituelles. Il ne pensait qu'à améliorer ses prouesses athlétiques. Ce qui comptait pour lui, c'était sa performance. Il est typique d'un homme charnel. En comparaison, Jacob était un garçon bien ordinaire. Il demeurait sous les tentes. Il n'aimait pas les sports et la chasse. Il était le préféré de sa mère. Il était peut-être trop dépendant d'elle. Vous noterez plus loin qu'il a fait tout ce qu'elle lui a recommandé. C'est le garçon de sa maman. Par contre, Ésaü est le garçon préféré de son père. Verset 28. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Maintenant, nous pouvons voir qu'un problème se pointe à l'horizon. En effet, ce favoritisme en causera un. Lorsque les parents ont chacun leur préféré, leur chouchou, vous pouvez compter sur des ennuis. Et c'est ce qui s'est produit dans la famille d'Isaac. Isaac aimait Ésaü, car il lui ramenait du gibier lorsqu'il allait à la chasse. Il ne revenait jamais bredouille. Isaac admirait et aimait son fils aîné, qui était un homme des champs. Par contre, Rebecca aimait Jacob. Il était le chouchou de sa mère. Vu sous cet angle, Ésaü semble être une personnalité plus intéressante. Il semble être une personne plus équilibrée. Par contre, Jacob semble être plus rusé. Il essaie d'être plus malin. Il va même jusqu'à s'abaisser et faire des choses moralement mauvaises. Dieu devra le confronter à cause de son péché. Malgré qu'Ésaü ait paru mieux de l'extérieur, il n'avait aucun intérêt pour Dieu et les choses spirituelles. Il ne vit que pour le matériel et les prouesses sportives. Mais chez Jacob brûlait un désir intérieur pour les choses spirituelles. Dieu a dû travailler dans le cœur de Jacob pour l'amener à vraiment marcher par la foi. Il a dû polir la pierre brute pour en faire un chef-d'œuvre. Nous verrons plus loin que Jacob était vraiment un homme de Dieu, celui que Dieu avait choisi. Cependant, cela ne se manifesta que plus tard dans sa vie. Chers amis, nous étudierons tout cela en temps et lieu. La Bible nous raconte un incident qui s'est produit dans leur foyer. Nous ne sommes pas surpris qu'il y ait eu des inégalités dans ce foyer. Le favoritisme ne pouvant que provoquer des conflits, et ce foyer ne fut pas des plus heureux. Versets 29 à 32. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» La nature de ces deux hommes est révélée dans cet incident. Ésaü revenait des champs très épuisé. Il ne crevait pas de faim, comme certains le suggèrent. Personne élevé dans la maison d'Abraham ne manque de nourriture. Il y en avait abondamment. Cependant, au moment du retour d'Ésaü, il n'y avait rien de prêt à servir, sauf le plat de roux. Jacob avait préparé soit un ragoût ou une soupe. Ésaü dit donc, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Ce nom signifie « rouge », un rouge comme celui de la terre. L'aîné demande donc la permission de prendre du ragoût. Jacob est un rusé et un malin. Donc, il a répondu, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Quelle était la valeur de ce droit d'aînesse? À cette époque, le droit d'aînesse faisait de toi le patriarche de la maison après le décès du père. Cette personne devenait aussi le prêtre de la famille. Dans cette famille en particulier, celui qui possédait le droit d'aînesse faisait partie de la lignée qui conduit jusqu'à Jésus-Christ. Ésaü n'accordait pas une grande valeur à ce privilège. Jacob était conscient du fait qu'Ésaü méprisait le droit d'aînesse. Il ne tenait pas à devenir le prêtre de la famille, le patriarche. Cela ne l'intéressait pas du tout. Cela m'attriste lorsqu'un chrétien, à qui on demande de faire quelque chose dans l'Église, répond qu'il n'est pas un prédicateur. Trop de chrétiens ne veulent pas participer ou contribuer à des activités spirituelles. Ils ne veulent même pas être perçus comme des personnes spirituelles. Ils ne semblent pas s'intéresser aux choses de Dieu. Ésaü ne voulait pas être appelé pasteur ou diacre. Il ne voulait pas du droit d'aînesse. Il ne tenait pas à être l'héritier de la promesse. Faire partie de la lignée qui conduira à Christ. Cela ne le préoccupait pas du tout. Jacob profite de l'occasion pour échanger le droit d'aînesse d'Ésaü contre un bol de soupe. Ésaü accepta avec plaisir, après tout. Quelle est l'utilité du droit d'aînesse? Ça ne vaut même pas un bol de soupe. Donc, nous voyons quelle valeur avaient les choses spirituelles aux yeux d'Ésaü. Ce que fait Jacob n'est pas bien. Dieu lui a promis que son frère aîné le servirait. Donc, il devait recevoir le droit d'aînesse un jour, au moment choisi par Dieu. Mais Jacob est impatient. Il n'est pas disposé à attendre. Donc, il profite de la faiblesse d'Ésaü pour lui prendre son droit d'aînesse par ruse. Jacob aurait dû attendre que Dieu le lui donne. Jacob ne jugeait pas utile de s'appuyer sur Dieu pour obtenir ce qu'il pouvait prendre par ses propres moyens. Jacob pensait qu'il pouvait gérer sa vie lui-même. Selon les normes du monde, il se tirait bien d'affaire. Mais un jour, il dut passer par l'école de Dieu. Son oncle Laban était le directeur de l'école. Là, Jacob a appris de nombreuses leçons. Cependant, jusqu'ici, il est convaincu qu'il est assez malin pour obtenir ce qu'il désire, ce qui lui revient de droit. Poursuivons notre lecture, versets 33 et 34. Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but. Puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Voyez-vous la gravité du geste d'Ésaü? Il a mangé le potage et il est sorti. Ésaü a donné son droit d'aînesse en échange d'un bol de potage. Il méprisait vraiment ce droit d'aînesse. Il n'attachait pas aucune valeur spirituelle à ce droit. Les choses spirituelles ne l'intéressaient pas. Nous rencontrons beaucoup de gens qui ont la même attitude vis-à-vis des choses spirituelles aujourd'hui. Nous avons des personnes dans nos églises qui sont ainsi. Les choses spirituelles ne les intéressent pas. Ils n'ont aucune compréhension des vérités spirituelles. Nous reconnaissons un chrétien au fait qu'il se laisse enseigner et diriger par Dieu et s'attache aux choses de Dieu. Donc, nous voyons maintenant l'état spirituel des deux garçons. Jacob profite de son frère qui méprise le droit d'aînesse et les valeurs spirituelles. C'est comme un homme qui possède un objet de famille, une Bible luxueuse qui a appartenu à son grand-père. Son frère lui propose 25 cents pour le livre. Il accepte parce que la Bible ne l'intéresse pas du tout et qu'il allait la jeter. C'est ce qu'a fait Ésaü. Mes chers amis, que de leçons à retirer dans ce chapitre concernant mon approche envers Dieu, ma relation avec Dieu. Tout d'abord, Ésaü. Il aurait dû s'attacher aux choses d'en haut, les désirer ardemment. Nous sommes exhortés, nous aussi, à le faire. Dans Matthieu, chapitre 6, verset 33, où le Seigneur lui-même nous encourage, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » L'attachement à son royaume, l'attachement également à sa justice. Est-ce que nous recherchons la présence et la justice de Dieu dans notre vie? Et que dire de cet autre texte de l'apôtre Paul, et je cite Colossiens, chapitre 3, versets 1 et 2. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Priorité dans ma vie de m'attacher aux révélations et aux bénédictions venant de Dieu. Chers amis, que dire de cet autre personnage, Jacob, qu'il a manqué de patience envers Dieu? Il a voulu de par lui-même, par des ruses de toutes sortes, de s'accaparer l'héritage. Un héritage que Dieu avait déjà promis à Jacob, suite à une révélation à sa mère Rebecca. Et je cite le texte, Genèse 25, verset 23. « Et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Ici, c'est clair et net. Nous voyons que Dieu a promis que Jacob serait l'héritier de la promesse. Soyons patients. Attendons le temps de Dieu pour la réalisation de ses promesses. Acceptons ce que la Bible nous demande de faire, d'avoir confiance en Dieu. Il l'a promis, il le fera, chers amis. Préparons-nous à la prochaine émission, en lisant et méditant le 26e chapitre du livre de la Genèse.
Merci, Régin. Ce qui a attiré mon attention le plus concernant l'enseignement d'aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas tricher pour construire le royaume de Dieu, bien sûr que non. C'est même mal de tricher, même si c'est dans le but de construire pour le royaume de Dieu. Régent nous a enseigné que Jacob pensait qu'il pouvait gérer sa vie lui-même, qu'il n'était pas nécessaire qu'il s'appuie sur Dieu pour obtenir ce qu'il pouvait prendre par ses propres moyens. Pourtant, il allait accomplir la volonté de Dieu dans les années qui suivraient. Il croyait pouvoir gérer sa vie lui-même. Ça nous arrive, nous autres aussi, hein? Est-ce que ça t'arrive, toi, d'agir comme ça? Tu sais que tu vas être un pasteur un jour, ou un animateur pour les temps de louange, ou un diacre, ou une diaconesse, ou un évangéliste. Eh bien, je t'encourage à attendre le temps de Dieu, à laisser Jésus marcher devant toi pour ouvrir le chemin. Je suis certaine que tu vas t'épargner beaucoup de souffrances inutiles. Dieu connaît ton désir de le servir. Mais présentement, tu es à l'école. Il y a des tas de choses à t'enseigner pour te préparer à bien remplir ton ministère. Il y a quelques années, j'étais à une fin de semaine d'ouvrier en formation. Et puis un pasteur qui avait beaucoup d'années d'expérience prêchait un soir. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est quand il a dit « Soyez patient, le Seigneur n'est pas pressé. » Et justement, ces jours-ci, ça me fait penser que je suis en train de compléter la production d'un CD. Et j'ai commencé à composer la plupart de ces chants il y a environ peut-être 10 ans. J'étais prête à enregistrer il y a 3 ans. Moi, j'étais prête. Mais c'était pas le temps de Dieu. Les finances empêchaient les enregistrements. Ensuite, il y a eu des problèmes de mixage. Et maintenant, il y a des petits problèmes techniques qui retardent la fabrication de la pochette. Mais je suis certaine que la main de Dieu est avec moi et que le lancement de ce CD aura lieu au meilleur moment, le temps de Dieu. Entre-temps, il m'enseigne la patience et je crois sincèrement qu'il pourra bénir les gens qui en feront l'écoute au moment où ils pourront se le procurer, mais pas avant. En bon anglais, le timing de Dieu est toujours parfait. J'ai souvent, malheureusement, tenté de devancer Dieu. Par exemple, dans des achats. J'ai fait des mauvais achats. J'ai dépensé sans consulter Dieu, puis je l'ai regretté. Oh, merci mon Dieu pour ta miséricorde, ta patience envers moi. Et merci pour les leçons que tu me donnes à travers mes erreurs. T'es-il arrivé déjà de devancer Dieu dans le domaine spirituel de ta vie? Ou même dans le domaine matériel? Mais je suis certaine que t'as vu les conséquences. Le temps de Dieu, c'est toujours le meilleur temps. Comme le temps qui va revenir nous chercher, qui va venir chercher son Église. Quand il est parti, il a dit, « Je viens bientôt, je reviens bientôt. » Il y en a qui peuvent penser que ça fait 2000 ans qu'il a dit ça, puis il n'est pas encore venu. Et moi, je l'attends chaque jour. Je sais qu'il va revenir me chercher bientôt. Pour lui, un jour, c'est comme 1000 ans, 1000 ans, c'est comme un jour. Et justement, quand on lui appartient et qu'on est dans sa volonté, on ne voit pas le temps passer. C'est tellement réjouissant de travailler dans son œuvre, puis de l'attendre, puis de chercher à hâter son règne en accomplissant sa volonté, en annonçant la bonne nouvelle du salut, en sachant qu'il est en train de nous préparer une belle place dans son royaume. Attendons-le. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Il a dit, « Voici, je reviens bientôt. »
Chers auditeurs, nous aimerions vous inviter à poursuivre votre réflexion sur votre vie et à écouter l'émission télévisée « L'heure de la bonne nouvelle » qui est diffusée sur tout le réseau de télévision TQS tous les dimanches matins dès 8h. Le thème de la série est « Si tu connaissais le don de Dieu ». Vous aimeriez connaître ce don que Dieu vous offre? Son amour, son pardon, son salut, sa paix, sa compassion. Sa bonté. Dieu vous offre ce qu'il y a de plus précieux, son Fils unique, le Seigneur Jésus. Oh, si vous connaissiez ce don merveilleux que Dieu vous offre, et à quel point Dieu vous aime, votre façon de voir la vie serait changée. Votre vie en serait complètement transformée, et vous pourriez recevoir son pardon et avoir l'assurance de vivre éternellement dans le ciel avec Dieu. C'est un rendez-vous à retenir l'heure de la bonne nouvelle tous les dimanches matins dès 8h sur tout le réseau TQS.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.